Belle soirée à tous sur Europe 1, il est 22h. L'heure de retrouver le journal qui est présenté par Marguerite Lefebvre. Bonsoir Marguerite.
Bonsoir Karima, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, la mobilisation des Gilets jaunes se poursuit. Le leader du mouvement, Éric Drouet, vient d'être interpellé. Il participait à un rassemblement non déclaré près de la place de la Concorde à Paris. Ce matin, c'est en Seine-Maritime qu'une autre opération coup de poing avait eu lieu. Pour calmer cette colère, Emmanuel Macron avait annoncé un grand débat national. Une lettre du président de la République sera adressée aux Français mi-janvier. Un message pour cadrer le débat auquel les citoyens pourront participer. Il est enfin appliqué. Après 3 ans de préparation, le prélèvement à la source débarque en France. Les premiers à tester cette retenue, ce sont les retraités. Illustration en Alsace dans ce journal. Autre mesure du gouvernement qui fait déjà beaucoup parler, les sanctions seront renforcées pour les chômeurs qui ne cherchent pas assez activement un emploi. Réforme dénoncée par les syndicats et par les chômeurs eux-mêmes, vous l'entendrez. L'actualité, c'est aussi les pesticides de synthèse comme le glyphosate qui seront désormais interdit à la vente. Et puis en football, Fabregas à Monaco, ça pourrait être le premier gros coup de ce mercato d'hiver. La météo, du soleil au sud, de la grisaille au nord, nous dira Valérie Darmon. La bourse, ce sera avec Didier Hamot de boursier.com. Et puis la France bouge, retour ce soir sur les 110 ans d'une grande maison, spécialiste de la gastronomie française, la Comtesse du Barry, est née dans le Gers en 1908.
Europe 1.
On disait le mouvement en perte de vitesse, la mobilisation de moins en moins importante, mais les Gilets jaunes n'ont pas baissé les bras. Ils continuent de se mobiliser malgré les fêtes. Un rassemblement a eu lieu ce soir près de la place de la Concorde à Paris. Rassemblement non déclaré, au cours duquel le leader du mouvement Éric Drouet a de nouveau été interpellé. Il est actuellement en garde à vue. La police politique cible et harcèle les animateurs du mouvement, selon Jean-Luc Mélenchon qui vient de publier un message sur son compte Twitter. Sur place, la situation est toujours assez confuse. Les forces de l'ordre ont été déployées en nombre. Mobilisation à Paris. Et ce matin, c'est en Seine-Maritime qu'une opération coup de poing a eu lieu autour du dépôt pétrolier de Grand-Quevilly. Jean-Gabriel Bourgeois, vous avez passé la journée avec ces Gilets jaunes.
Oui, ils étaient un peu plus de 60 ce matin, très tôt et très déterminés. Ils se sont retrouvés vers 4 heures à l'entrée du dépôt pétrolier de Grand-Quevilly. Objectif, bloquer l'entrée et la sortie des camions-citernes. Les manifestants ont quitté les lieux peu avant 9 heures. Cyril était présent.
Ça a duré 5 heures en total. Bon, ça s'est fini très bien. Hein. La commissaire est venue, on a discuté avec et puis ça a permis de bloquer un petit peu et de faire en sorte qu'on montre un peu notre mécontentement, de ralentir un peu l'économie, mais ça ne l'a pas totalement bloqué. De toute façon, on n'a pas les moyens de bloquer totalement. On n'est pas non plus agressif à vouloir tenir tête aux forces de l'ordre.
Certains sont ensuite allés mener une opération barrière levée sur un péage de l'A13 à la mi-journée. Ça a duré une petite demi-heure avant que les policiers ne les délogent. D'autres ont décidé de filtrer la circulation en début d'après-midi au rond-point des Vaches à Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est là que les Gilets jaunes sont établis depuis le début de la mobilisation. Une mobilisation qu'ils entendent bien prolonger au-delà des vacances, quitte à aller plus loin, comme l'explique Hélène.
Ce qu'on appelle les actions coup de poing. On bloque pendant un certain temps, comme là ce matin. Voilà, on n'est pas mort, on est toujours vivant et on fait des petites actions coup de poing comme ça, qui permettent de dire on est toujours là. On continue, on lâche rien.
Des Gilets jaunes de Rouen toujours très déterminés donc et qui passent en ce moment une nouvelle soirée autour d'un feu de palette et des klaxons de soutien des automobilistes.
Merci Jean-Gabriel Bourgeois. C'est pour calmer cette colère des Gilets jaunes qu'Emmanuel Macron avait annoncé à l'automne un grand débat national. Les citoyens seront appelés à se prononcer sur de grandes questions. Ce débat, le président de la République le lancera officiellement avec une lettre adressée aux Français, un message qui sera envoyé vers la mi-janvier dans une quinzaine de jours. Une lettre, Aurélie Herbemont, qui n'arrivera pas par la poste.
Effectivement, puisque cette lettre sera diffusée via les réseaux sociaux et dans la presse, dans les quotidiens régionaux, notamment autour de la mi-janvier. L'Élysée a préféré cette option plutôt qu'un envoi postal. Ça devrait coûter moins cher à l'État. En 2003, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin avait envoyé un courrier à tous les foyers pour défendre la très décriée réforme des retraites. Ça avait coûté 3 millions d'euros. Pas forcément une bonne idée par les temps qui courent. Alors dans ce courrier, Emmanuel Macron précisera ce qu'il attend du grand débat national et cadrera les thèmes qui seront abordés. Je vous rappelle ces grands thèmes retenus par le gouvernement: transition écologique, fiscalité, organisation de l'État, démocratie et citoyenneté. Un débat qui va durer jusqu'à mi-mars et qui pourrait se terminer par un référendum sur des questions institutionnelles. Vote blanc, proportionnel, baisse du nombre de parlementaires, c'est une des pistes envisagées par l'exécutif.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Alors une lettre publiée dans la presse et non envoyée par la poste, c'est un un peu décevant pour Stéphane Chevet de la CFDT.
Quand on dit que l'on s'adresse à tous les Français, la seule façon de le faire, c'est en effet de s'adresser à tous les Français et pas de passer par les réseaux sociaux. Je pense que le président Macron a oublié qu'il existait des zones blanches en France et que tous les Français n'avaient pas accès à Internet, mais que tous les Français ont accès à leur boîte aux lettres grâce à la Poste. C'est dommage pour le président de ne pas penser à une entreprise aussi moderne que la Poste. Je pense que c'est le cœur même du métier des postiers. Et est-ce que le président Macron veut réellement s'adresser à tous les Français? C'est la vraie question au final.
Stéphane Chevet, délégué CFDT de la Poste, joint par Com de Lannerie. Il n'y a pas de bug, les choses fonctionnent correctement. Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, s'est félicité tout à l'heure, alors que sa grande réforme du prélèvement à la source entre en vigueur cette semaine. Les premiers contribuables à vivre ce changement, ce sont les retraités dont les pensions ont été versées aujourd'hui. Et globalement, en effet, ça se passe plutôt bien, du moins si l'on en croit les retraités qu'a rencontré notre correspondant Arthur Mbaché à Strasbourg.
Premier tournoi de l'année cet après-midi au cercle de Bridge de Strasbourg, quand les joueurs, presque tous des retraités, s'installent 4 par 4 aux tables de jeu. Ça donne salut, bonne année, et toi, le prélèvement à la source, est-ce que ça marche? Non, ça déconne. Ça, c'est la réponse de Théo.
J'ai eu mon premier virement de la CARSAT, et il n'est pas juste, il est inférieur à ce que ça devrait être. Avec le taux de prélèvement indiqué par les impôts, ça ne concorde pas.
Et la différence est importante?
10 ou 12 euros. J'ai créé mon compte, j'ai fait un courriel déjà ce matin.
Il n'a rien d'autre à faire.
Oui, je suis retraité, alors je regarde ça.
Bon, sur la quarantaine de joueurs, Théo est le seul en fait qui a remarqué un problème. Dans l'ensemble, ça donne plutôt ça.
Écoutez, pour l'instant, tout est OK, pas de problème.
Ça marche. Dans presque tous les cas, la retraite est rabotée comme il faut, pourcentage correct, conforme aux prévisions des impôts. Liselotte est née en Allemagne. Avant d'emménager ici, il y a pas mal d'années, elle n'avait connu que le prélèvement à la source.
Quand je suis née en France, c'était horreur. J'ai jamais bien compris. J'étais très étonnée. Tout le monde doit faire tout ce papier-là.
Et donc maintenant
Maintenant, je suis habituée à l'autre. Maintenant, je me suis réhabituée. C'est beaucoup de choses comme ça.
Bonne nouvelle pour ceux qui aiment les maths. Aujourd'hui, c'est la partie complémentaire des pensions qui a été virée sur le compte en banque des retraités. La retraite dite de base, c'est prévu pour mardi prochain. Vous pourrez à nouveau faire le calcul, vérifier si la baisse correspond au taux fixé par le fisc. Strasbourg, Arthur Mbaché, Europe.
Cette réforme du prélèvement à la source concernera donc 38 millions de contribuables, dont les chômeurs qui eux aussi vont être touchés dans les jours qui viennent lors du versement de leurs indemnités. Des chômeurs qui ont appris que le gouvernement allait les sanctionner davantage, du moins ceux qui ne recherchent pas assez activement un emploi. Le décret a été publié au Journal officiel dimanche dernier. Les chômeurs seront désormais radiés un mois s'ils ratent un rendez-vous Pôle emploi, radiés deux mois s'ils en ratent deux, et ainsi de suite. Les syndicats dénoncent une chasse aux chômeurs. Écoutez Pierre-Édouard Magnan, le porte-parole de l'Association des chômeurs et précaires.
Jusqu'à présent, quand vous étiez radié un mois, vos allocations étaient en fait suspendues et décalées dans le temps. Mais là, maintenant, c'est encore mieux puisqu'on va carrément leur piquer un mois. C'est-à-dire qu'en gros, l'État fait la poche des chômeurs et va, sous prétexte qu'ils ne chercheraient pas suffisamment activement un emploi, leur piquer un mois, voire deux mois d'allocation. Je rappelle quand même deux éléments pour que les gens aient bien en tête de quoi nous parlons. Un chômeur sur deux dans ce pays n'est pas indemnisé. Et l'indemnisation moyenne d'un chômeur en France est aux alentours de 1000 euros par mois. Vous imaginez bien que si vous lui piquez un mois, vous allez le mettre dans une situation de précarité personnelle par rapport au logement, par rapport à sa famille, par rapport à des soins, par rapport à l'alimentation, tout ce que vous voulez. Et entre parenthèses, là encore, on voudrait nous faire croire que c'est en précarisant des gens, en les appauvrissant davantage, qu'on va les aider à retrouver du boulot. On marche sur la tête dans ce pays sur le sujet des chômeurs.
Pierre-Édouard Magnan, le porte-parole de l'Association des chômeurs et précaires, il répondait à Olivier Samin. Préavis de grève dans les airs à Marseille, la CGT appelle les salariés d'Air France qui travaillent à Marseille à cesser le travail ce lundi. Le syndicat dénonce des conditions de plus en plus difficiles. Depuis novembre, 3 salariés se sont suicidés à leur domicile. Des drames qui pour autant n'ont pas de lien établi avec leur poste au sein de la compagnie aérienne. C'est la première fois que cela arrive dans le Pas-de-Calais. Une boucherie a été vandalisée le soir du réveillon. La façade taguée et dégradée à coups de pierre. Les malfaiteurs, probablement des militants véganes, y ont laissé cette insulte. Assassin, le propriétaire de la boucherie a décidé de porter plainte.
Marguerite Lefèvre sur Europe 1.
C'est l'un des changements de ce début d'année et il concerne particulièrement les propriétaires de jardins, ceux qui ont l'habitude d'entretenir leurs plantes ou leurs potagers. Les pesticides de synthèse sont désormais interdits. Ils ne seront plus en vente en France. Virginie Salmen, de quoi parle-t-on exactement ?
Tous les pesticides de synthèse, donc chimiques, sont désormais interdits, dont le célèbre Roundup de Monsanto. Il n'y en a plus dans les rayons des jardineries. Et quand je vous dis que c'est interdit, c'est à la fois l'achat, l'utilisation et le stockage. Ça devient une infraction pénale que de pulvériser de l'insecticide ou du désherbant chimique dans son jardin ou son allée. La peine maximale prévue est de 6 mois de prison et 30 000 euros d'amende. Alors désormais, on peut utiliser exclusivement des produits d'origine naturelle, notamment ce qu'on appelle le biocontrôle, c'est-à-dire qu'on éradique plus les pucerons, les parasites, les ravageurs, mais on essaye de limiter leur prolifération jusqu'à un niveau acceptable. Alors concrètement, ça veut dire qu'au lieu de vaporiser du désherbant chimique, on va soit utiliser des brûleurs pour les mauvaises herbes, ou bien des désherbants à base d'acide pélargonique, une substance issue d'une plante qui ressemble au géranium. Autre exemple concret, en cas d'invasion de pucerons sur des rosiers, plus question de vaporiser de l'insecticide de synthèse, vous pourrez toujours utiliser un spray, mais un spray à base d'huile de colza. Autre solution, disposer des larves de coccinelles vendues en sachet qui viendront ensuite manger les pucerons. En clair, il va falloir apprendre à jardiner autrement.
Toutes les explications de Virginie Salmen. Un mot de l'affaire du siècle. Cette pétition dépasse tous les records. Près de 2 millions de personnes l'ont déjà signée. Ce mouvement vise à attaquer l'État français en justice pour qu'il respecte ses engagements en matière de réchauffement climatique. À l'étranger, le bras de fer budgétaire se poursuit aux États-Unis. Donald Trump ne lâche rien sur le mur qu'il entend construire à la frontière avec le Mexique. Le président américain assure que le blocage du budget pourrait durer. Cela fait 12 jours que l'administration américaine est complètement paralysé. Puis toujours à l'étranger, cette alerte en mer du Nord. Un navire pris dans une tempête a perdu 270 conteneurs. Certains se sont échoués sur des plages aux Pays-Bas, mais 4 conteneurs qui n'ont pas encore été localisés contiennent une substance dangereuse, du peroxyde organique, une substance extrêmement inflammable. On a coutume de dire que le transport aérien est le plus sûr. Ça reste vrai, même si les chiffres de 2018 ne sont pas bons. 15 accidents mortels ont été recensés. 556 personnes ont perdu la vie dans des crashs d'avions. Ce sont les plus mauvais chiffres depuis 5 ans. Pour Xavier Titelman, spécialiste de l'aéronautique, il reste encore des progrès à faire dans certains pays du monde.
On sait que certains pays n'appliquent pas les règles internationales et les recommandations des constructeurs. Dans certains pays, l'Indonésie, Cuba, le Népal, ce sont vraiment des zones dans lesquelles il faut se poser des questions, mais évidemment, on ne peut pas tomber sur ces avions-là quand on achète un billet depuis l'Europe. Par contre, on ne peut pas aller en Russie, dire aux Russes, ben maintenant, il faut interdire de vol vos Antonov. Ce sont des avions qui sont dangereux, et depuis ce crash qui a eu lieu en février dernier, l'avion est interdit de vol. Mais c'est des avions qui ne peuvent déjà plus sortir de Russie. Le principe de la liste noire, c'est l'Union européenne va faire des contrôles sur les avions, et si une compagnie ou si un pays n'est pas fiable, on va l'interdire de vol en Europe. Donc à partir du moment où on achète un voyage qui décolle d'Europe, et quelle que soit la destination, même s'il y a une escale, on sait qu'on n'utilisera pas un avion qui est sur liste noire et donc qui est potentiellement dangereux. On a zéro crash, on a zéro mort dans les grands pays occidentaux et dans les pays qui se sont alignés sur nos standards.
Xavier Titelman, spécialiste de l'aéronautique, joint par Marine Protet. À Angers, c'est une saisie record. La police judiciaire a intercepté plus de 2,5 tonnes de cannabis, soit environ 25 millions d'euros. La marchandise provenait du Maroc et a été retrouvée dans un fourgon garé dans le sud de la ville. 4 personnes ont été mises en examen. Le sport et ce début d'année plein de rumeurs sur la planète foot. Le mercato d'hiver est en train de se jouer. Plusieurs clubs français attirent tous les regards, notamment l'AS Monaco de Thierry Henry. Le club pourrait s'offrir le défenseur brésilien Naldo. Les discussions vont bon train. Autre nom qui circule de plus en plus, le milieu espagnol Fabregas serait sur le point d'arriver. Cyril de la Morinerie, c'est presque une légende qui pourrait arriver à Monaco.
C'est en effet un joueur de grande classe qui pourrait rejoindre Monaco. Cesc Fabregas, c'est une Coupe du Monde, 2 Coupes d'Europe remportées avec l'Espagne. Il a porté 110 fois le maillot de la Roja. C'est enfin 3 championnats glanés avec Arsenal et Chelsea. À 31 ans, le milieu de terrain a de beaux restes, mais il est très peu utilisé par son entraîneur. En l'espace de 6 mois, il n'a joué que 154 minutes avec Chelsea, l'équivalent d'un match et demi seulement. Un joueur d'une telle envergure n'a pas vocation à passer son temps sur le banc. Du coup, Monaco s'est penché sur son nom, d'autant que Thierry Henry le connaît très bien. Les deux hommes ont joué ensemble à Arsenal de 2003 à 2007 et ils partagent le même agent. Le contact a vite été établi et d'un point de vue financier, il n'y a aucun blocage. À Monaco, c'est bien connu, on paye moins d'impôts, un contrat de 2 ans et demi et une prime à la signature de 10 millions d'euros aurait été proposé à Fabregas. C'est donc un virage à 180 degrés que s'apprête à faire Monaco dans sa politique de recrutement. La jeunesse a ses limites et le club de la Principauté compte désormais s'appuyer sur des joueurs d'expérience pour relancer l'équipe de Thierry Henry.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Un mot de tennis et cette journée parfaite pour les Français sur les courts. Victoire de Pierre Hugerbert qui se hisse en quart de finale à Doha. Victoire également de Benoît Paire et de Gilles Simon en Inde. Enfin à Brisbane, Jérémy Chardy a réussi à se défaire du prodige australien Nick Kyrgios. Victoire en 3-7 sur la tête de série numéro 8. On passe à la météo. Valérie Darmon, il faut s'attendre à une France coupée en deux demain.
Tout à fait, le soleil qui gagne du terrain par le sud. Mais en attendant, demain matin, les nuages bas dominent toujours la moitié nord avec quelques petites averses faibles sur les côtes de la Manche, tout comme sur les frontières de l'Est. Sur la Bretagne, le ciel est plus lumineux qu'ailleurs, malgré un fin voile nuageux, un petit peu comme aujourd'hui. Dans le sud-ouest, beau temps, passé les brouillards givrants au sud de la Garonne. Et ailleurs, le soleil qui s'impose du matin jusqu'au soir, aidé par le vent, qui faiblit tout de même. Mistral et Tramontane ne souffleront plus qu'à 60 km/h. Les minimales sont en baisse. Il y a des gelées du sud-ouest à l'Alsace, entre moins 4 et moins 1. Et puis ailleurs, 1 à 4 degrés. Les maximales en baisse aussi. 2 à 5 degrés sous les normales de saison, avec des valeurs comprises entre 5 et 7 sur la moitié ouest, entre 9 et 14 dans le sud-est, et 1 à 4 ailleurs.
Merci, c'était la météo de Valérie Darmon. Europe 1. 22h et bientôt 16 minutes sur Europe 1 et on vous propose ce soir de vous replonger dans les moments forts de l'année 2018 en matière de sport. Aujourd'hui, on vous emmène en Espagne, à Madrid plus précisément, pour revivre l'année du Real, une année faite de montagnes russes. Le récit de Simon Rubin.
En 2018, le Real Madrid a encore dominé l'Europe. On est le 26 mai, emmené par Zinedine Zidane sur le banc, les Madrilènes sont champions d'Europe pour la troisième fois consécutive. C'est l'apogée pour l'entraîneur français qui n'en finit plus d'impressionner et pour ce groupe qui a peu changé depuis l'arrivée de Zidane, mais qui vit ses dernières heures de gloire. Et ça, on ne le sait pas encore. Pour l'heure, le Real célèbre sur la pelouse de Kiev et puis à domicile, Madrid, dans un stade comble avec feu d'artifice en prime. Quelques jours plus tard, Sergio Ramos, le capitaine, exulte. On nous disait que c'était impossible. Impossible, eh bien, on l'a fait, les gars. Lâchez Sergio Ramos devant son public. Et ça, dit-il, c'est grâce à un homme, à monsieur Zinedine Zidane. Zidane, l'architecte, celui qui a ramené tant de succès au club et celui qui va provoquer un petit tremblement de terre dans le monde du foot 5 jours après le sacre européen. Conférence de presse annoncée en catastrophe par le Real Madrid. Il se murmure que Zinedine Zidane prépare une annonce forte. Et en effet, il coupe court au suspense au bout de quelques secondes. « J'ai pris la décision, dit-il, de ne pas continuer l'année prochaine ».
Il faut savoir aussi s'arrêter et se dire que ce que je veux pour le bien, enfin, pour le bien aussi de cette équipe, de ce club, c'est que je veux qu'il continue à gagner. Et je pense sincèrement qu'avec moi, ça aurait été peut-être compliqué. Il y a eu des bons moments, mais des moments difficiles. Et moi, je ne les oublie pas, ces moments difficiles. Voilà.
Un peu plus tard dans l'été, c'est un autre monument de la Maison-Blanche qui s'en va. Cristiano Ronaldo, le Portugais, prend la route de la Juventus Turin. Clairement, c'est le crépuscule d'une génération dorée à Madrid. Zidane a senti l'essoufflement d'un groupe qui l'a poussé au bout de son potentiel. Mais cette fois, l'ogre est gavé. Une page se tourne donc pour le Real, que l'on retrouve dans une forme bien différente à la rentrée. Benzema, Modric, Ramos et Bale sont toujours là, mais sous la férule de Julen Lopetegui, ex-sélectionneur de l'Espagne, la mayonnaise ne prend pas. Et du 26 septembre au 28 octobre, le club va même perdre 5 matchs sur 7, dont un cinglant 5-0 contre Barcelone. Et l'année qui s'ouvre doit surtout permettre au Real Madrid de renaître et d'accomplir la promesse de son éternel retour au sommet du foot européen.
Rétrosport signé aujourd'hui Simon Rubin.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, on fait un point sur la bourse et puis la France bouge, on parlera de la Comtesse du Barry. L'entreprise fête cette année ses 110 ans. 22h19, vous êtes bien sur Europe 1. Tout de suite, on fait un point sur l'actu de la bourse avec Didier Hamot de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Marguerite.
Wall Street commence l'année 2019 sur une note plutôt hésitante.
Ça hésite, oui, ça tourne en rond même. Les mauvais chiffres de conjoncture en provenance de Chine font douter les investisseurs. De très mauvais chiffres, publiés ce matin d'ailleurs. Le Dow Jones termine quand même en hausse très légère, 0,08%, 23 346 points. Le Nasdaq progresse de 0,46%, 6 666 points. À noter quand même le pétrole qui rebondit de 2%, un sursaut à $46,60 le baril WTI, ce qui soutient les grandes valeurs pétrolières aux États-Unis. On a Exxon en rebond de 2,2%, Chevron plus 1,7%, Royal Dutch plus 1,5%. Puis sur les valeurs de technologie, Tesla corrige de près de 7% après des ventes décevantes au quatrième trimestre, en hausse malgré tout de 8%, mais le marché attendait des ventes en progression de plus de 10%. On a aussi Apple qui est stable, $158. Amazon remonte un petit peu, plus 2,5%. IBM reprend 1,5%. Sur les devises, l'euro revient sous les 1,14. On est à 1,1350 face au dollar.
Un mot de la Bourse de Paris qui a terminé la première séance de l'année en baisse avec le secteur automobile.
Un repli oui, qui aurait pu être plus sévère puisqu'on perdait plus de 2% en matinée. Finalement, le CAC 40 recule de 0,87% à la clôture, 4689 points. Effectivement, c'est le secteur automobile qui a plombé le marché. Renault chute de 2,9%, Peugeot moins 2,8%. On a aussi Valeo, l'équipementier, moins 3,9%, Faurecia moins 5,7%. Après la nouvelle baisse de 15% des immatriculations au mois de décembre en France, ça plombe donc tout le secteur. Plus globalement, les mauvais indices de conjoncture en provenance de Chine ont fait reculer les grands groupes exportateurs. On a Bouygues en baisse de 2,8%, Eramet moins 3,8%, STM moins 2,7%, ou ArcelorMittal moins 2,4%.
Exception du jour, Didier, le titre Total a regagné un peu de terrain.
Ça remonte un petit peu, plus 1%, Total à 46,65€ dans le sillage du rebond des cours du brut. Donc, le groupe pétrolier a aussi démarré la production d'un champ majeur au large du Nigeria qui représente 10% de la production du pays. Total ce soir en hausse d'1%. Ailleurs, sur les autres places financières, en Europe, le DAX à Francfort, plus 0,2%, une petite hausse, mais Bruxelles recule de 0,6%, Amsterdam moins 0,2%, Milan termine stable, de même que Londres. On rappelle le CAC 40 en repli de 0,87%, 4689 points.
Merci, c'était Didier Hamot de Boursier.com. Comme tous les soirs, cette semaine, il est l'heure de retrouver un extrait de La France bouge, l'émission de Raphaël Duchemin tous les jours entre 12h30 et 14h. Ce soir, il est question de gastronomie française et du Sud-Ouest tout particulièrement. Raphaël Duchemin recevait à l'automne dernier Jérôme Fourest, le directeur général de la Comtesse du Barry, qui fête cette année ses 110 ans.
Bonjour Jérôme Fourest.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui dirigez cette belle maison aujourd'hui depuis 2013. Vous êtes arrivé chez une très vieille dame, on peut le dire comme ça, qui avait besoin d'un petit coup de jeune quand même. Et d'ailleurs, mon petit doigt m'a dit que vous ne connaissiez pas à l'époque.
Alors en effet, j'avais entendu le nom, comme beaucoup de nos concitoyens, mais malheureusement, je n'étais pas rentré dans un magasin et j'avais vaguement eu un rapport avec le foie gras, les produits du Sud-Ouest, mais c'était encore très flou avant de découvrir la marque.
Ce qui était la preuve finalement qu'il y avait un vrai déficit d'image et de notoriété.
Alors en l'occurrence, j'aime bien dire que la notoriété en France est de 48%, mais elle n'est pas de 48% à tous les âges. Elle est plutôt de 80 à 90% au-delà de 50 ans et plutôt proche de 20, voire 15% en dessous de 20 à 25 ans.
Oui, c'est ce qui vous a décidé à remettre un petit coup de jeune à la Comtesse du Barry. Vous êtes du coup remonté à la source, hein, si j'ose dire. Vous êtes allé voir l'outil de production tout simplement. Et là, vous vous êtes dit, mais c'est ça notre meilleur argument.
Exactement. En fait, l'entreprise existe depuis 1908, fabrique ses produits sans additifs, sans conservateurs, des produits à base de canard, de produits alimentaires français, puisqu'on est situé dans le Gers à Gimont. Et en effet, j'ai trouvé que la manière de produire, c'était de l'artisanat, faire des productions de plus de 300 produits différents. Les gens avaient envie de savoir aujourd'hui que c'était ça qu'ils consommaient et ils étaient à la recherche de ces produits justement sans additifs, sans conservateurs, avec des recettes traditionnelles.
Alors du Barry, c'est le nom des créateurs dans le Gers, effectivement, hein, 1908. Mais il n'y a pas de comtesse à l'horizon. En tout cas, la comtesse, elle vient d'ailleurs.
Exactement. Monsieur et Madame Dubarry, Gabriel et Joseph, les fondateurs, ont eu l'idée amusante de prendre le patronyme de Comtesse Dubarry, qui se trouve était une personne qui aimait bien manger et qui était en effet une contemporaine de Louis XV.
Et alors pour le coup, ils sont très novateurs, nos Dubarry, parce que ce sont les premiers à mettre le foie en conserve.
Alors tout à fait, lui est ferblantier à l'époque, donc fabricant de métal, et elle est charcutière, et ils ont l'idée, pour pouvoir l'envoyer, notamment en correspondance, de mettre le foie gras en conserve. Mais ils se sont pas arrêtés là, puisque la deuxième génération a inventé le bloc de foie gras en 1954. Donc le fait de pouvoir permettre de toucher une cible plus large sur le produit culte du foie gras. Et puis les plats cuisinés en conserve aussi qui ont suivi. On a toujours été très en avance sur la partie culinaire, étant des passionnés en fait de ce que l'on faisait.
Ouais, quatre générations hein, de Dubarry qui se sont succédées.
Tout à fait.
Entre-temps, évidemment, elle a vieilli. Et vous avez dû enlever un certain nombre de produits pour essayer de doper finalement les ventes et de refaire partir la marque.
Alors, en 2011, en effet, elle est cédée à une coopérative agricole, Maïssadour, qui est une grande coopérative du Sud-Ouest qui produit en l'occurrence les canards, les poulets et d'autres spécialités. Et en l'occurrence, a permis à la marque de prendre le temps de se réinventer. Quand on a une marque aussi culte que Comtesse du Barry, mais qui a 100 ans ou 105 ans derrière soi, il faut repartir à la source et prendre le temps de se réinventer. C'est ce que nous avons fait en appuyant d'abord sur les valeurs qui sont le Sud-Ouest, l'authenticité, le patrimoine et puis tout ce qui était lié encore une fois au savoir-faire. Et en repartant des bases, on a réinventé un nouveau type de magasin et c'est ces nouveaux magasins que nos clients peuvent découvrir aujourd'hui dans 60 villes en France.
Le coach François Sigel.
Bonjour. On est au lendemain d'un rapport encore alarmant sur l'état du climat pour les années à venir. L'agriculture est relativement en accusation. Alors vous allez me dire que c'est effectivement l'agriculture qui sert à nourrir des animaux lourds comme des bœufs ou des cochons, mais en même temps on est quand même dans une ambiance de grande préoccupation quand même. Et on nous dit qu'il faut manger plus sain, plus manger de nourriture industrielle. Je ne parle pas après du gavage des oies, etc. Ça, c'est encore un débat supérieur. Mais je voulais savoir comment une entreprise comme celle-là, aujourd'hui, comme la vôtre, moi, je connais évidemment très bien la marque Dubarry. Après, vous disiez tout à l'heure que tous vos produits venaient du Sud-Ouest. Pour moi, je vous aurais facilement accusé d'importer enfin, effectivement, des animaux de Pologne. Je voulais savoir comment vous inscrivez effectivement dans ces préoccupations maintenant de respect de la vie animale, de respect de la qualité, de respect de la proximité, de respect des sols.
Alors, merci de me donner l'occasion de répondre à ce point-là. Justement, c'est parce que nous sommes producteurs dans le Sud-Ouest et que nous fabriquons 90% de ce que nous vendons. On vend aussi un petit peu de champagne, de vin, etc. que nous ne fabriquons pas, qui n'est pas à marque d'ailleurs Comtesse du Barry, que l'on va être extrêmement attentif à nos approvisionnements et notamment à ceux qui sont à base de produits élevés, en l'occurrence, donc canards, poulets, mais aussi cochons, dans le Sud-Ouest. Les produits sont sans additifs, sans conservateurs depuis toujours et ce que je dis, c'est que justement le marché aujourd'hui vient vers nous, j'ai envie de dire. Donc on est l'anti-malbouffe et c'est ça qu'il faut que j'arrive à faire passer dans nos magasins justement à une clientèle qui est à la recherche de cette éthique. Aujourd'hui, pour revenir juste à cette question, on dit, beaucoup d'études disent qu'il faut manger moins de viande et faire attention à sa santé. Et donc nous, on dit justement, si vous en mangez moins, mangez-en mieux. Et c'est justement la raison pour laquelle nos produits ont du succès, c'est que quitte à justement mieux consommer, autant aller chez des gens qui vont faire des produits de grande qualité.
Merci Jérôme Forest d'être venu nous parler de la Comtesse du Barry.
Eh ben
bon anniversaire
reçu
à elle, 110 ans cette année.
Je lui dirai.
La France bouge avec Raphaël Duchemin, c'est tous les jours entre 12h30 et 14h et toute cette semaine donc rediffusion à 22h20. Restez avec nous, dans un instant on épluche les unes de vos quotidiens de demain. À tout de suite. À la une de vos quotidiens demain, l'amour du RIC, du RIC, le référendum d'initiative citoyenne. C'est la une de Libé, illustrée par ces deux gilets jaunes, main dans la main. Ce référendum est devenu leur revendication numéro 1, le cri du peuple, nous dit le quotidien. Cette mesure fédère les partisans de la démocratie réelle. Référendum, oui, mais sur quel sujet et à quelles conditions ? Ça n'est pas encore tranché. Les Échos se penchent, eux, sur le statut des auto-entrepreneurs. Simplification administrative, fiscalité allégée, souplesse dans les déclarations. Depuis la création du statut il y a 10 ans, de plus en plus de candidats se lancent. 1 300 000 personnes sont auto-entrepreneurs en France, mais se pose désormais la question de leur protection sociale, bien inférieure à celle des salariés. Question sensible relancée par les chauffeurs VTC ou les livreurs à vélo. La Croix vous emmène demain aux États-Unis et plus particulièrement en Californie, à Paradise. Il y a 2 mois, des images impressionnantes faisaient le tour du monde. Un incendie a littéralement ravagé 90% de cette petite ville. Aujourd'hui, les habitants commencent doucement à revenir. Des rescapés qui doivent compter sur la solidarité et l'entraide. Voilà pour la presse de demain. Il est 22h30, Europe Nuit c'est terminé. Passez une excellente soirée tout de suite. C'est la libre antenne de Sabrina Philippe. Bonsoir Sabrina.
Bonsoir Marguerite.
Et toujours un seul numéro pour les auditeurs qui souhaiteraient vous joindre, le 39 21 jusqu'à 1h du matin.
Exactement, on vous retrouve tout à l'heure. Merci.